le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant en ce premier dimanche de l'Avent. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Bonjour.
Bonjour Benjamin.
Frédéric Rognon, quel est le sens du temps liturgique de l'Avent chez les protestants et chez les chrétiens ?
C'est une bonne question. Nous sommes en effet aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Alors qu'est-ce que l'Avent ? Rien à voir avec ce qui est avant, par opposition avec ce qui vient après. Avant s'écrit avec un E, pas avec un A. L'Avent vient du latin adventus, qui fait référence à l'avènement, c'est-à-dire à la naissance, à la venue, à l'arrivée. L'Avent, c'est cette période de 3 à 4 semaines qui précède Noël et au cours de laquelle les chrétiens se préparent à la venue de Dieu en Jésus-Christ. Ils se préparent intérieurement, ils préparent leur cœur à cette fête, à cette célébration d'un Dieu qui nous a rejoints, qui est venu vers nous pour nous dire combien il nous aime. Alors l'Avent, c'est un temps de préparation intérieure afin d'accueillir Dieu dans notre vie.
Et je vous invite maintenant à lire le texte que vous avez choisi pour nous conduire dans une méditation dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 2 à 18.
La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et tous verront le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des collecteurs d'impôts pour être baptisés. Et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa fourche à la main. Il va nettoyer son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres encouragements. « Ce texte que nous venons d'entendre parle de l'avant de manière à la fois très claire et tout à fait paradoxale. C'est en réalité un double texte, une formule de l'Ancien Testament dans la bouche du prophète Ésaïe et sa citation par Jean-Baptiste dans l'Évangile selon Luc. Une voix clame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Je ne sais pas comment vous comprenez cet oracle du prophète Ésaïe, repris par Jean-Baptiste. Il y a au moins deux façons de le comprendre. Vous pouvez le comprendre ainsi. Une voix clame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Ou bien vous pouvez le comprendre comme cela. Une voix clame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Selon la ponctuation que vous insufflez dans l'oracle, votre réception de l'oracle variera entre les deux versions. Car le texte d'origine en hébreu n'avait pas de ponctuation. C'est donc à chacun de s'approprier cet oracle à sa manière et d'assumer sa propre lecture. Même si nous sommes bien évidemment influencés par les choix des traducteurs de la Bible en français, mais justement, ces traducteurs ont généralement choisi la deuxième version pour traduire l'oracle d'Ésaïe et la première pour traduire sa reprise, sa citation par Jean-Baptiste dans l'Évangile selon Luc. Il y a donc au moins deux façons de comprendre cet oracle, et chacune de ces deux façons révèle un trait de votre propre personnalité, un peu comme ces tests psychologiques qui consistent à vous montrer deux images imbriquées l'une dans l'autre et à vous demander laquelle des deux vous voyez spontanément, la jeune fille ou la vieille dame. Dans le premier cas, une voix clame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Le désert est le lieu de la voix qui crie, le lieu de la proclamation. Les chrétiens prêchent dans le désert. Ils témoignent de leur foi dans un monde indifférent. Dans le second cas, une voix clame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Le désert est le lieu du chemin à préparer. Nous vivons dans le désert, notre vie est un désert, un chemin escarpé et rocailleux, un chemin de solitude, et c'est là que nous agissons, que nous préparons la venue du Seigneur. Bien entendu, nous pouvons concilier les deux versions. Le désert peut être à la fois le lieu de notre vie et le lieu du témoignage de la foi chrétienne. Le lieu de l'action et le lieu de la proclamation. Nous pouvons avoir l'impression tout en même temps de vivre dans le désert et de prêcher dans le désert. Mais qu'est-ce que c'est au fond que le désert ? Oui, qu'est-ce que le désert ? Le désert peut être une parabole de la vie et de la foi du chrétien. Le désert, c'est le pays de la solitude. Le désert, c'est le pays de la sécheresse. Le désert, c'est le pays de la soif. Et le désert, c'est le pays de la marche en avant, de la marche mue par la soif, de la marche nécessaire pour ne pas mourir de soif, pour atteindre le lieu où étancher sa soif. Nous avons soif, soif de comprendre, soif de trouver du sens, soif de justice, soif d'amour, soif de tendresse. Nous pouvons nous représenter la vie du chrétien comme un désert, comme une marche, avec ses différentes étapes. La vie du chrétien est une marche dans le désert, une marche mue par la soif de Dieu. Mais nous le savons aussi, tout désert comprend des oasis. Une oasis est un lieu extraordinaire, un lieu où jaillit de l'eau vive au milieu du désert. Et la vie du chrétien est comme une marche dans un désert parsemé d'oasis. Notre vie à chacune et chacun est une marche dans le désert, une marche ponctuée d'oasis. Et à chacune de ces oasis, nous pouvons étancher notre soif. Nous pouvons nous désaltérer à la source d'eau vive avant de reprendre notre route. Le culte, la vie fraternelle dans l'Église ou en dehors de l'Église, la main tendue, le regard de tendresse, le mot d'amour, telles sont quelques-unes des oasis, quelques-unes des occasions de rencontrer celui qui est la source d'eau vive, celui qui étanche notre soif au milieu du désert de notre vie. Mais la parabole du désert pour notre vie ne concerne pas seulement notre vie extérieure, notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre vie relationnelle. Elle concerne aussi notre vie intérieure. Notre vie intérieure est menacée par la sécheresse, par la solitude intérieure. Notre vie intérieure est touchée par la soif. La fatigue, la lassitude, la résignation, les épreuves de l'existence font de notre vie intérieure un chemin caillouteux et raboteux. Alors, nous nous tournons vers celui qui étanche notre soif, qui nous désaltère. La prière, le silence intérieur, la lecture et la méditation de la Bible sont quelques-unes des occasions de nous abreuver, de retourner à la source d'eau vive, de nous ressourcer au cœur même de notre désert intérieur. C'est ainsi que les chrétiens vivent leur foi et leur vie spirituelle. Pour eux, le Christ est comme une source qui désaltère, qui renouvelle, qui fait du bien, qui fait vivre. Tels sont donc les lieux désertiques où l'oracle du prophète Ésaïe retentit encore aujourd'hui. Tels sont les lieux désertiques où la voix de Jean-Baptiste annonce aujourd'hui encore la venue du Messie. Tels sont les lieux désertiques où nous sommes invités à relayer et actualiser le témoignage de la foi d'Ésaïe et de Jean-Baptiste. Et tels sont les lieux désertiques au cœur desquels nous sommes invités à préparer le chemin du Seigneur. Mais que signifie donc préparer le chemin du Seigneur ? Pour mieux le comprendre, faisons plus ample connaissance avec Ésaïe et ensuite et surtout avec Jean-Baptiste. L'oracle du prophète Ésaïe retentit au beau milieu de l'exil du peuple hébreu à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'exil, comme l'Exode avant lui, est l'expérience même du désert extérieur et intérieur. Et c'est au sein même de cette épreuve considérable qu'Ésaïe annonce la libération à venir. Mais il l'annonce de manière indirecte, en parlant d'une voix qui annonce et d'une voix qui crie et clame. Lui-même n'est pas cette voix. Il ne fait que relayer la voix. « Une voix clame dans le désert », annonce-t-il. La reprise de l'oracle par Jean-Baptiste, 6 siècles plus tard, se produit aussi au désert, dans la région du Jourdain, et se produit aussi à une époque de grand désert intérieur, de grand désarroi, de grande souffrance, de grand silence, puisque les prophètes s'étaient tus et que le ciel ne parlait plus. Et une époque de quête de sens, une époque de soif, soif de libération, soif de vie spirituelle. Mais quel curieux personnage que ce Jean-Baptiste ! Sacré personnage même ! Quel étrange prédicateur tout d'abord ! Je ne sais pas si vous supporteriez longtemps un prédicateur qui vous traiterait, vous, chères auditrices, chers auditeurs, depuis un studio de France Culture, de « bande de serpents » ou de « race de vipères ». Et puis, comme nous le racontent d'autres textes dans les évangiles de Matthieu et de Marc, son accoutrement et son mode de vie étaient pour le moins originaux. Je ne sais pas ce qu'une église dirait d'un pasteur portant des vêtements en poils de chameau et une ceinture de cuir et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Mais surtout, c'est son refus d'officier au temple de Jérusalem pour préférer aller le faire au Jourdain en plein désert qui posait problème. Je ne sais pas ce qu'une église penserait d'un pasteur qui ne franchirait plus les portes du temple, mais ne baptiserait que dans la rivière. Jean-Baptiste, voilà un personnage bien peu orthodoxe, un rien provocateur. Eh bien, laissons-nous provoquer un instant, car Jean-Baptiste nous provoque, mais il nous provoque à la conversion. Il nous provoque à la vie avec Dieu. Jean-Baptiste est celui qui nous appelle à changer, a changé notre compréhension des choses, a changé notre regard sur le monde et sur notre prochain, a changé notre comportement. Comment cela ? Jean-Baptiste est fils du prêtre Zacharie. Il est donc sans doute lui-même prêtre, puisque la prêtrise est transmise de père en fils. Et pourtant, alors que tout le système religieux était centré sur le culte célébré au temple de Jérusalem et sur les sacrifices d'animaux qui y étaient pratiqués, voilà qu'il rompt avec le temple, voilà qu'il s'en va vivre au désert et voilà qu'il remplace le sacrifice sanglant par le baptême d'eau. Un baptême qui offre le pardon des péchés et dont le seul préalable, la seule condition, est la conversion, le changement de vie, de regard et de comportement. Le salut n'est donc plus réservé à un groupe, ni même à un peuple, encore moins à une élite de purs qui observerait scrupuleusement les rites. Non, le salut est offert à tous ceux qui croient et qui mettent leur vie en conformité avec leur foi. C'est pourquoi, dans le texte de Luc, Jean-Baptiste s'adresse à la foule de gens qui viennent à lui et il leur déclare en citant Ésaïe que tout le monde verra, c'est-à-dire prendra part, que tout le monde verra le salut accordé par Dieu. Et lorsqu'il annonce que les pierres deviendront des descendants pour Abraham, il nous montre que le temple, qui est le lieu de célébration du culte, le temple ne doit pas être un temple de pierre, mais un temple d'hommes, une communauté vivante. Et pour cela, nos cœurs endurcis comme la pierre doivent devenir des cœurs de chair, des cœurs vivants. Alors nous serons chacun de nous, et en tant que communauté, nous serons nous-mêmes le temple de Dieu. Contestation du temple de Jérusalem, universalité du salut, appel à la conversion. Décidément, Jean-Baptiste avait de quoi effrayer les bien-pensants. Il bouleversait les conceptions religieuses de son temps. Il sapait les fondements de la religion établie. Aujourd'hui encore, Jean-Baptiste nous bouscule. Chaque fois que nous sommes tentés de nous raccrocher à une église-institution, à des dogmes, à une religion figée, Jean-Baptiste est là avec son message décapant. Il est là pour nous rappeler la primauté de la conversion et de l'amour, la primauté de la vie sur les structures officielles. Et pourtant, l'essentiel n'est pas encore là. Jean-Baptiste n'est pas le Messie, le Fils de Dieu envoyé par son Père auprès des hommes. Jean-Baptiste n'est que celui qui prépare le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste n'est qu'un précurseur, qu'un éclaireur. C'est pourquoi il s'efface devant Jésus. « Je ne suis même pas digne de délier ses souliers, dit-il, car moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et il ajoute « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Le baptême, comme la prédication de Jean-Baptiste, ne sont qu'une préparation à recevoir celui qui vient après lui. Jean-Baptiste n'est pas le Messie, pas plus qu'Ésaïe ne l'était. Mais lorsqu'Ésaïe ne faisait que parler de la voix qui crie dans le désert, Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean en tout cas, se fait plus précis. Il s'identifie à cette voix. « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Il est donc la voix, mais il n'est que la voix. Il n'est pas la parole. Il prépare le chemin de la parole. Il prépare le chemin du Verbe fait chair, le chemin de la parole de Dieu qui s'est incarné en un homme, Jésus-Christ. Malgré le caractère subversif de son message, Jean-Baptiste ne fait qu'annoncer Jésus-Christ. En ce premier dimanche de l'Avent, nous nous souvenons de Jean-Baptiste comme d'une figure éminente de la marche vers Noël, comme d'un précurseur qui nous invite à préparer la venue de Jésus à Noël, à préparer nos cœurs et à préparer tout notre être pour ce cadeau, ce vrai cadeau de Noël. De même que Jean-Baptiste s'est réapproprié l'oracle d'Ésaïe, De même, aujourd'hui, nous sommes appelés à nous l'approprier, à incarner cet oracle sous sa double version, dans le désert de notre vie et dans le désert du témoignage de la foi. Dans le désert de la solitude, mais aussi dans le désert habité des villes et des foules anonymes, dans le désert de l'indifférence. C'est là que Dieu, en Jésus-Christ, vient nous rejoindre. C'est là qu'il faut l'annoncer. Dans le désert intérieur, dans la souffrance, dans le deuil, le mal de vivre, la détresse, l'angoisse. Dans le désert des chambres d'hôpitaux, dans le désert des cellules de prison, dans le désert des familles éclatées, dans le désert des incertitudes face à notre avenir et à celui de nos enfants. C'est là que Dieu, en Jésus-Christ, vient nous rejoindre. C'est là qu'il faut l'annoncer. C'est là que doit se préparer la rencontre avec lui. Le désert, le pays de la soif, il peut être celui de la soif de Dieu. C'est cette soif que Jean-Baptiste veut provoquer en nous. C'est ce qui fait de lui une figure à la fois si rude et si attachante, mais combien actuelle. Sa voix s'adresse à nous, elle nous concerne. Dans nos déserts, sur nos chemins tortueux, caillouteux et raboteux, préparons la venue du Seigneur, et tout le monde verra le salut proposé et accordé par Dieu.
Merci beaucoup Frédéric Rognon, professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Philippe Mercher pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant 47 rue de Clichy 75009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantaupluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant service protestant. Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wacknin. Et je vous retrouve tout de suite pour Culture Protestante.